Bonsoir à tous. Merci d'avoir bravé les ténèbres extérieures pour venir jusqu'ici, alors que la lumière décline en ce très beau temps de l'Avent où nous nous préparons à Noël. Nous vous proposons en effet comme thème de notre soirée ce soir l'enfant inattendu. L'enfant inattendu a plus d'un titre, un Dieu enfant. Je prêchais hier devant des adolescents dans une aumônerie et je leur disais qu'effectivement, à l'âge de l'adolescence, on met un point d'honneur à gommer toute trace de l'enfance, à effacer tout ce qui peut rappeler qu'on a été un enfant dans les mimiques, dans les postures peut-être un peu enfantines ou dans les interjections. On cherche à traquer toute trace de l'enfant. Eh bien, je leur montrais que Dieu, lui, n'a pas honte de se montrer tel qu'il est, comme cet enfant fragile, le Verbe de Dieu, comme un enfant qui fait areux, un enfant qui est vagissant dans son berceau. Alors, effectivement, un enfant inattendu, donc un Dieu inattendu. Un Messie trop attendu, un Messie attendu par Israël comme un libérateur politique, comme un libérateur aussi de nos puissances spirituelles, mais sûrement pas attendu comme l'enfant. Alors, nous qui n'avons pas bénéficié du ministère public de Jésus, qui n'avons pas marché à sa suite sur les routes de Galilée, qui n'avons pas bénéficié de sa prédication, de sa présence, cette présence où ses compagnons ont fini par percevoir quelque chose de la présence même du Dieu d'Israël, nous avons ces textes qui nous font remonter jusqu'à la généalogie la plus intime de Jésus. Et donc, qui est cet homme ? La réponse à cette question passe forcément par la question de l'origine, de l'immémorial, de ce qui est toujours plus en amont, de ce qui est originaire. Pierre de Bérulle, au XVIIe, dans sa vie de Jésus, ne médite que les opérations divines dans le sein de Marie. Il ne médite que sur ce mystère d'origine. Alors, juste avant de commencer, et donc en vous remerciant à nouveau d'être ici et en remerciant à nouveau Marc d'être avec nous, je voudrais juste faire le point peut-être sur ce dossier historique des sources, les fameux évangiles de l'enfance. Vous savez, il y a toute une bibliographie autour des textes qui nous parlent de l'origine et de la naissance de Jésus. Vous connaissez peut-être les livres en français de Jean Danielou ou de René Laurentin dans la bibliographie catholique. Vous avez aussi en américain le grand livre de Raymond Brown qui a écrit tout un livre sur le mystère de Noël et sur les évangiles qui nous donnent accès à ce mystère. Vous le savez, dans la tradition catholique, nous disons que même si nous ne nous référons pas à la sola scriptura, nous disons quand même que l'écriture est la norma normans, c'est-à-dire la norme qui norme le reste, qui est la référence pour la théologie. Donc les données scripturaires, c'est un dossier épineux. Pourquoi ? Parce que vous le savez, au sein même de nos communautés chrétiennes, il y a des objections sur l'historicité des évangiles de l'enfance, les évangiles de Luc et de Matthieu, des objections soit pour démythologiser, démythifier, pour rompre avec la pensée mythique, et des grands théologiens comme Bultmann ont même vu finalement dans tout l'évangile une sorte de mythe, et je pense que nous n'en sommes plus tout à fait là, mais je dirais que l'opinion publique même, la doxa populaire, pense parfois que les textes des évangiles de l'enfance sont des fables. À partir du moment où un enfant comprend que le 25 décembre, c'est le solstice d'hiver et que ça n'est pas la date anniversaire de la naissance de Jésus, eh bien tout le reste, d'une certaine manière, est un petit peu frappé de caducité ou en tout cas de questionnement, comme on dit aujourd'hui. Alors, face à cette tendance, à l'objection, il y a d'autres qui vont refuser tout le travail de la critique biblique depuis plus d'un siècle et qui vont prôner une lecture qui peut même être fondamentaliste, c'est-à-dire une lecture littérale des textes de l'enfance, qui vont dire que Marie, qui a médité tout cela dans son cœur, s'est confiée à Luc, et Luc a couché par écrit le témoignage. Vous voyez, d'une certaine manière, en court-circuitant la dimension de médiation et peut-être même d'inspiration de ces textes. Ce sont des textes inspirés, ce ne sont pas simplement des témoignages ou des documentaires dont l'exactitude relèverait d'un texte banalement historique. Alors d'autres, par ailleurs, fidèles à la méthode historico-critique, vont essayer finalement de voir dans les textes s'il y a des éléments qui relèvent de procédures historiques et donc effectivement si l'on peut voir dans les textes des évangiles de l'enfance, dans l'Annonciation, dans toutes ces scènes finalement très intimistes où il y a peu de témoins, la Visitation, la Nativité, ils vont essayer de voir ce qui relève d'une plausibilité historique. Mais il faut le reconnaître, ces exégètes souvent s'avouent en définitive assez vite paralysés et je crois que finalement ils sèment autant de doutes que de certitudes et on les sent souvent très réticents. Hein. Et en tout cas, en général, ces écoles d'exégèse ne dépassent pas l'interrogation. Alors, il y a quatrième groupe, si je puis dire, de personnes qui, elles, connaissent l'état des recherches scientifiques, qui savent ce qu'est, par exemple, un midrash. Effectivement, les gens littéraires des évangiles de l'enfance sont typiques de ce genre judaïque, ce genre littéraire qu'on appelle le midrash, qui essaie de réinterpréter dans le présent, dans l'actualité, les textes de la Torah. La Torah est vue comme quelque chose de vivant pour un juif, donc il y a toujours quelque chose à nous dire, la Torah ne cesse de nous parler, et les juifs de la synagogue produisent des récits pour réactualiser ces textes, en faisant une sorte, si vous voulez, de mosaïque, de citations, et ces citations, par leur connexion interne, par leur intertextualité, finissent par produire un nouveau texte. Alors, bien sûr, ce quatrième groupe connaît ce genre littéraire et ces exégètes-là, au rang desquels j'aurais la prétention de me compter, finalement, essaient de distinguer, d'une part, ce qui est de l'ordre des données historiques, une naissance à Bethléem. Alors certes, cette naissance est annoncée à Bethléem par les prophètes, mais est-ce que c'est pour autant que l'auteur a voulu absolument coller à la lettre des écrits prophétiques en faisant naître Jésus à Bethléem? Il y a toute une question. Est-ce que Jésus est né plutôt en Galilée ou plutôt à Bethléem? Donc, distinguer, faire le distinguo sans cesse entre les données qui peuvent relever d'une objectivité historique et d'autre part, l'intention théologique du texte, c'est-à-dire que vise le texte. Tout texte biblique vise à dégager une signification, un événement aussi unique que l'incarnation de Dieu dans l'histoire, l'irruption de Dieu dans l'histoire. Eh bien, vous savez, on ne peut connaître qu'à partir de ce qui est déjà connu, mais à partir du moment où on est face à une nouveauté radicale, il faut bien mettre en œuvre des moyens nouveaux. Et effectivement, il faut, à partir d'un instrument minimal, limité forcément, une capacité à raconter avec éventuellement des citations bibliques, eh bien on va essayer de dégager le caractère unique de cet événement. Alors, ce soir, effectivement, nous vous invitons à ce travail et de découvrir à quel point les textes des évangiles de l'enfance sont d'un maniement extrêmement délicat. Pourquoi ? Parce que tout simplement, pour les auteurs, qu'on les appelle Matthieu ou Luc, ou les auteurs évangéliques, le travail était très délicat à partir de leur moyen d'expression et leur visée, qui était quand même une visée de témoignage pour tous, et pas seulement pour une élite de lettrés ou de scribes ou de docteurs de la loi du temple. Avec des moyens d'expression limités, il fallait essayer de tenter de définir la portée d'un événement comme celui que nous fêtons à Noël, sa nouveauté radicale, cette espèce de pli qu'il introduit dans l'histoire, puisque avec la naissance de Jésus, il y a un avant et un après, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas mettre à plat l'histoire, il y a une sorte de pli qui apparaît comme l'événement de la croix. Et d'une certaine manière, l'événement de la naissance et l'événement de la croix ont un lien souterrain qui est celui même du mystère pascal. Entre l'incarnation et la rédemption, vous le savez bien, il y a une relation vitale qui en font l'envers et l'avers d'une seule et même réalité divine. Voilà, donc un enfant inattendu, un enfant trop attendu. Nous vous proposons donc ce soir deux textes, l'Annonciation chez Matthieu avec Joseph et l'Annonciation chez Luc avec Marie.
Merci beaucoup Jérôme pour cette introduction, et c'est vrai que par rapport à ça, je crois qu'on peut être tout à fait serein, je crois, parce que c'est vrai que par rapport à ces miracles, est-ce qu'on doit démythologiser en disant ce n'est que du conte théologique, ou bien aller chercher vraiment une réalité très physique et craindre et trembler devant les ricanements que l'on peut entendre, ou même simplement les recherches de nos savants exégètes donc sur la connaissance de la Bible. Eh bien, on peut être très serein par rapport à cela, car à mon avis, de toute façon, même si c'est vraiment historique, car des faits historiques, il y en a bien entendu dans les évangiles, c'est indubitable. Donc même s'il y a un fait historique littéral, je dirais physique, derrière ces récits de miracles, de conceptions miraculeuses, d'anges qui viennent, même s'il y a une réalité physique, eh bien, elle est là comme un signe. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le fait historique qui n'aurait de l'intérêt que pour la naissance de Jésus, je ne sais pas quoi. De toute façon, si Dieu s'est fatigué, j'allais dire, entre guillemets, fatigué à avoir cette conception miraculeuse pour Jésus de Nazareth, d'une manière très physique, très pragmatique, très matérielle, voilà, une conception miraculeuse dans une vierge. S'il a fait ça, c'est pas juste, je dirais, pour le prodige ou pour le plaisir d'avoir fait un joli numéro de cirque, si vous voulez. Je crois qu'à ce moment-là, c'est vraiment un geste qui est posé. La preuve, c'est qu'il nous est raconté dans les évangiles. Et si c'est raconté dans les évangiles, par définition, c'est qu'il se dit quelque chose là du salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. C'est-à-dire que de toute façon, même si c'est historique, matériel, tout à fait concret, je dirais physiquement, matériellement, c'est pour nous parler, à travers cet événement tout à fait surnaturel, nous parler de notre salut. C'est-à-dire que c'est à la fois un événement qui est complètement unique, mais en même temps, c'est quelque chose qui est fait pour que nous le vivions nous-mêmes. Et alors, par exemple, c'est ce que nous entendons, par exemple, d'un mystique comme Maître Eckhart, Angelus, Silesius, toute cette tradition, mais ce n'est pas eux qui l'inventent, si vous voulez, à cette époque-là. Ils disent, et c'est bien dit, vous savez, Angelus, Silesius, c'est un mystique, il a l'habitude de faire des petites homélies, petites prédications de 4 lignes, presque comme des haïkus japonais, vous savez. Et il dit, ça ne servirait à rien que le Christ fût né 1000 fois à Bethléem s'il ne naît pas aujourd'hui dans ton cœur. Tu restes, toi, mort à jamais, finalement. Donc c'est bien la question, si vous voulez, s'il y a cette conception, si on parle ici de Marie, de Joseph, eh bien c'est pour que nous soyons à notre tour, à l'exemple de Marie, à l'exemple de Joseph, eh bien nous puissions vivre ce miracle. Et donc quand tu as dit que le Midrash, c'est pour rendre vivants les textes bibliques et que nous les vivions, je crois bien que c'est le cas, si vous voulez. Dieu se révèle à travers l'histoire, il se révèle aussi par des paroles, et voilà, donc je pense que dans ces textes, ils sont écrits pour que nous vivions ce salut de Dieu qui est donné. Donc on peut dire qu'importe finalement la réalité physique, matérielle, historique de ces textes, enfin si, c'est pas inintéressant, on peut se poser la question, en débattre tout à fait sereinement, Et puis ensuite, on dit, ben maintenant, passons aux choses sérieuses, ou plutôt aux choses qui nous concernent personnellement aujourd'hui dans notre existence. De toute façon, qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu l'a fait physiquement, c'est pour nous dire quelque chose. Si c'est simplement une prédication, c'est-à-dire une mise en récit d'une réalité théologique et existentielle, pour rendre compte de l'évangile du Christ, eh bien, on s'y intéresse exactement de la même façon, en se disant en quoi ce texte aujourd'hui et maintenant me concerne. Donc finalement, qu'importe la réalité historique et physique? À mon avis, il y a des traces de la réalité historique et physique dedans. Par exemple, le fait que Jésus s'appelle Jésus. Il s'est appelé Jésus, c'était un nom qui était courant à l'époque. C'était le nom de Josué, si vous voulez, le successeur de Moïse qui rentre dans la terre promise. Bon, on voit dans cet évangile de Matthieu que nous allons lire maintenant, la prophétie, c'est que le Messie va s'appeler Emmanuel. Voilà. Eh bien, ils disent, voilà, eh bien, cette prophétie que le Messie va s'appeler Emmanuel, elle se réalise dans un homme qu'on va appeler Jésus. Et si vous voulez, c'est un peu surprenant, parce que ça réalise d'une manière relativement faible la promesse qui a été faite à Isaïe. Bon, on va lire ce texte, mais vous allez le voir en passant. Donc, si vous voulez, là, il y a quelque chose qui est comme une faille, si vous voulez. Ça veut dire que l'ensemble de l'histoire n'est pas que un midrash. C'est-à-dire que Jésus de Nazareth comme Messie, c'est pas inventé, ça. Il y a quelque chose d'historique qui est gênant, puisque ça fait, si vous voulez, il y a un échec dans un sens, la réalisation de la promesse de l'Écriture, de la promesse faite en Ésaïe, que le Messie s'appellera Emmanuel. Ben non, il s'appelle Jésus, ben c'est comme ça. Alors Matthieu, ben il dit, ben oui, c'est comme ça, voilà. Il devrait s'appeler Emmanuel, ben il s'appelle Jésus, ben voilà, c'est comme ça. Ça réalise la promesse en l'appelant Jésus, voilà, c'est comme ça. Donc si vous voulez, on voit là quelque chose de vraiment historique, et en même temps, si l'histoire était complètement inventée, ils auraient appelé Messie, ils l'auraient appelé Emmanuel, c'était plus simple. C'était une prophétie d'Ésaïe 7, ou je ne sais plus combien, ça valait mieux, tant qu'à faire, l'appeler, bon non. Il s'appelait Jésus, et bien quand même, ils écrivent une histoire qui nous parle de ce salut en Jésus-Christ. Alors je pense que oui, on peut s'ouvrir donc à ce récit, tranquillement, en se disant, ben, Joseph c'est nous, Marie c'est un type même du croyant, et bien c'est nous aussi, et c'est nous, en nous, que ce soir Dieu veut concevoir quelque chose qui est de l'ordre du Christ, en nous donnant l'Esprit Saint, et que nous puissions eh bien, être ben, ce nouvel Adam et cette nouvelle Ève dans un certain sens. Voilà. Alors, est-ce que vraiment il aurait fallu que cette conception miraculeuse soit purement nécessaire pour que Jésus soit fils de Dieu? Absolument pas, si vous voulez. On le voit, par exemple, dans les autres évangiles, puisqu'on parle du niveau historique. Bon, il y a Matthieu qui parle peut-être d'une conception miraculeuse, bien que ce ne soit pas évident, on va le voir dans le texte, que ce soit une conception miraculeuse dans ce cas. L'évangile selon Luc, oui, là, effectivement, c'est une conception miraculeuse. Marie n'a pas eu de relation sexuelle et il y a un enfant qui est conçu. Bon. Mais dans Marc, ce n'est pas du tout obligatoire. Dans l'évangile selon Marc, non, Jésus est fils de Dieu simplement par son baptême, j'allais dire par la foi ou par l'adoption de Dieu. Dans l'évangile selon Jean, non, c'est plutôt théologiquement, existentiellement, spirituellement, c'est une réalité voilà, qui est comme ça, mais ça n'a rien à voir avec une conception purement miraculeuse. Dans l'évangile selon Jean, Jésus est fils de Joseph et puis c'est tout, ce n'est pas un problème. Pour Paul, qui est à la limite le cinquième évangile, Jésus est né d'une femme comme nous tous, donc pour lui c'est pas un problème. Jésus incarne le salut que Dieu donne, c'est vraiment le Christ et pourtant il n'a pas entendu parler, ou en tout cas pour lui ce n'est pas essentiel, fondamental, cette conception miraculeuse. Pour les juifs de l'époque, ils disent que Jésus était le fils d'un soldat, d'un fils de l'adultère entre Marie et un fils, un soldat romain qui s'appelait Pandera ou Pantera, Panthère. Et alors, peut-être, à ce moment-là, cette histoire de Joseph que nous allons lire, eh bien, c'est l'histoire du pardon, si vous voulez, de Joseph qui adopte cet enfant né d'une faute, qui adopte Marie, qui aurait couché alors qu'elle était fiancée ou violée par un soldat romain. Et alors, si vous voulez, et si c'était vrai, l'histoire, la réalité physique, l'histoire, vraiment l'histoire concrète de cette naissance de Jésus de Nazareth, n'en serait que belle aussi, si vous voulez. Ça n'empêcherait pas ces récits d'avoir une vérité historique, théologique, existentielle qui nous concerne. Donc, oui, on peut regarder ça d'une manière très sereine en se disant, voilà, nous avons dans ces évangiles quelque chose qui nous parle du salut absolument extraordinaire donné à l'humanité tout entière dans le Messie que Dieu nous donne en Jésus de Nazareth. Alors on peut s'ouvrir tranquillement à ces récits.
Nous allons commencer par lire l'annonce faite à Joseph au verset 18 du premier texte. Mais auparavant, je voulais vous expliquer pourquoi je vous ai mis tout le début de l'évangile selon saint Matthieu. En effet, nous avons ce texte qui est la généalogie, alors pour le coup reconstituée et un petit peu mythique, qui est découpable en 3 fois 14 ascendants. Nous avons cette généalogie qui n'est d'ailleurs pas identique avec celle que Luc donnera. Luc fait remonter Jésus jusqu'à Adam pour montrer l'universalité du salut. Matthieu fait commencer sa généalogie, vous le voyez, avec Abraham au verset 1. Voici la table des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi Matthieu prend-il le soin de nous donner ce texte qui peut-être peut nous sembler un petit peu fastidieux avec tous ces noms? En grec, on a la répétition, donc 3 fois, 14 fois du verbe « egenesse », c'est-à-dire « engendra, engendra, engendra ». Mais comme je vous rappelle que le thème de notre année, c'est « paternité et filiation », il m'a semblé intéressant de vous proposer ce texte. Pourquoi ? Parce que il nous présente l'enracinement humain de Jésus, et précisément cet enracinement est rendu possible par le « oui » de Joseph, qu'on oublie bien souvent. Mais c'est Joseph qui va permettre, en acceptant de prendre Marie sous son toit, dans le récit de Matthieu, qui va permettre de donner à Jésus une tradition, de l'intégrer dans une filiation extrêmement ancienne et dans une culture. Il n'y a pas d'incarnation sans inculturation, et ça touche des débats très contemporains. Le oui de Joseph va permettre précisément de donner tout son sens à cette généalogie et d'inscrire pleinement Jésus dans une généalogie israélite. En effet, il est fils d'Abraham, il est descendant aussi de Juda, donc il appartient à l'une des 12 tribus, qui est la tribu de Juda. Souvent on l'oublie, mais Jésus appartient à l'une des tribus, et il est aussi d'ascendance davidique. Donc il était très important pour que la titulature Jésus, fils de David, puisse être respectée, il était très important de montrer que, au moins par adoption, ce qui est le cas chez Matthieu et chez Luc, Jésus s'inscrivait dans la descendance du roi David. Alors, ce qui est plus frappant dans cette généalogie, qui nous paraît très lisse et très arithmétiquement correcte, c'est que, si vous voyez les premiers mots, on nous dit « voici la table des origines de Jésus-Christ ». La table des origines de Jésus-Christ, c'est exactement l'expression que l'on trouve dans l'Ancien Testament, notamment dans la traduction grecque, de ce chapitre 5 de la Genèse qu'on avait évoqué, le Sefer Toledot, c'est-à-dire la table de la descendance de Adam, donc du premier homme. Donc il y a ici quelque chose d'un petit peu mimétique, on est bien dans un Sefer Toledot. En grec, c'est même le livre de la Genèse. Donc il faudrait traduire même « voici le livre de la Genèse de Jésus-Christ ». Sauf que chez Adam, nous avions bien les descendants d'Adam. Nous étions dans une véritable généalogie, Adam engendre, etc. Et ici, on nous parle de la Genèse, non pas de la lignée d'Adam, mais de Jésus-Christ. Vous voyez, il y a un retournement. Nous n'avons pas des descendants d'Adam, mais nous avons les ascendants du nouvel Adam. Précisément, la volonté de Matthieu, c'est de présenter Jésus comme un nouvel Adam, comme un nouvel homme qui restaure la création blessée ou la création en attente. Mais ce nouvel Adam, on ne nous donne pas sa descendance, c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes de la descendance du Christ, spirituellement, mais nous avons la table de son ascendance, comme si, au fond, le mystère de l'incarnation venait mettre en lumière tout ce qui avait précédé, est comme si l'événement du Christ, l'apparition du Christ dans l'histoire, le surgissement du Christ dans l'histoire, venait donner son sens et sa signification plénière à tout ce qui avait eu lieu avant, comme si Jésus était le père de ses pères, comme si Jésus engendrait ses propres ascendants, comme s'il leur donnait rétrospectivement la signification ultime, définitive, plénière de leur vie, de leur existence. Et si on regarde de plus près, donc outre cette ascendance d'un nouvel Adam, nous découvrons qu'il y a quatre femmes qui sont citées dans cette ascendance. Tamar, Rahab, Ruth et la femme d'Uri, d'Urias, c'est-à-dire Bethsabée, la compagne du roi David. Donc quatre femmes qui sont, pour les trois premières, des étrangères. Donc vous voyez, il y a comme un bug dans cette généalogie israélite qui se veut absolument linéaire. Il y a comme quelque chose qui échappe à la linéarité. Trois étrangères, et Bethsabée est mariée à Uri, qui est un étranger, donc elle est entachée d'étrangeté. Elle est aussi presque une étrangère. Donc vous voyez quatre femmes qui sont des étrangères, comme si Matthieu, ici déjà, discrètement, voulait suggérer l'ouverture à l'universalité du salut. Comme si finalement la patrilinéarité juive rabbiniquement correcte n'était pas si importante que cela. Il y a d'un côté l'enracinement du Christ dans l'histoire d'Israël, mais simultanément, il y a de l'étrangeté. Il y a, on pourrait dire, une contamination par les goyim, c'est-à-dire par les nations, par les païens. Et outre cela, ces quatre femmes s'unissent de manière irrégulière. Vous le savez, Ruth, la Moabite, vient sous la tente pour s'unir à Boaz de manière tout à fait irrégulière. Donc, non seulement il y a une ouverture à l'universel, mais il y a aussi une ouverture à la grâce, à la gratuité. Dieu n'est pas prisonnier d'une généalogie. Dieu peut intervenir même de manière irrégulière au moyen de Bethsabée, par exemple, qui n'est pas l'épouse régulière du roi David. Donc vous voyez, il y a des signes qui sont disséminés dans cette généalogie que nous avons tendance à lire de façon extrêmement lisse et qui en fait introduisent déjà des motifs qui vont être développés par cette annonce prodigieuse faite à Joseph.
Oui, donc, oui, effectivement, les femmes, elles sont toutes là, c'est toutes des histoires un peu scabreuses, finalement, de conception. Alors, je ne sais pas si c'est Dieu qui agit d'une façon irrégulière, mais l'histoire connaît ses échos, ses accros, finalement. Le péché, par exemple, de David est un péché qui est effectivement terrible, qui est source de mort et de problèmes. Eh bien, même de ce péché de l'homme, Dieu le transforme en source de bénédiction. Et là, je crois qu'il y a déjà un signe de résurrection qui est donné ici. C'est-à-dire que, voilà, l'homme fait du mal, et bien même de ce mal que nous faisons, Dieu peut le transformer en source de vie. Même les sources de mort que nous posons dans l'existence et dans le monde, Dieu peut les transformer en source de vie. Et ça, je trouve qu'il y a déjà, comme tu le disais, vraiment la trace de la grâce et du pardon de Dieu qui vient dans une histoire, dans notre histoire ancienne, mais qui insuffle quelque chose de vraiment nouveau, peut-être qu'elle est de l'ordre de la grâce, qu'elle est de l'ordre de l'inattendu, et qui fait basculer l'histoire. Donc il y a à la fois les deux, il y a notre histoire, ce qui fait, oui, notre fragilité, nos limites, nos blessures, mais nos merveilles aussi. Eh bien, Dieu apporte son salut et va apporter quelque chose d'absolument extraordinaire et nouveau, qui va faire de cette pâte humaine, bien humaine, parfois trop humaine, quelque chose d'extraordinaire, comme dans cette histoire du Christ. Donc on va peut-être lire le texte, hein, je ne sais pas, bon, on va le lire, non ?
Oui, verset voilà. 18.
Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il n'eut pas de rapport avec elle. Elle enfanta un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alors voilà cette histoire, ce que je trouve déjà d'intéressant, si vous voulez, bon, il y a cette histoire ancienne dans la généalogie, mais finalement, au début de cet évangile, contrairement à l'évangile selon Luc que nous lirons tout à l'heure, eh bien Jésus est déjà conçu finalement. Et bon, on en parlait tout à l'heure, on ne sait pas si Marie était vierge ou non, mais en tout cas ce qu'il y a de sûr, c'est que Joseph l'est, et ça tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc ça c'est l'histoire du vierge Joseph finalement. Et ça je crois que c'est quand même intéressant parce que si vous voulez, ça vient nous dire, si nous nous mettons à la place de Marie et de Joseph, et que comme le disait Angelus Silesius, il faut, et comme le disent ces évangiles à mon avis, il faut que nous concevions que le Christ prenne naissance en nous, dans notre vie, dans notre histoire. Eh bien cette histoire nous dit, vous n'avez pas à concevoir le Christ vous-même. Et ça c'est quand même plutôt rassurant parce que, voilà, on est comme Joseph, on a des forces limitées, on a une histoire un peu qui est belle, mais qui est en même temps assez part d'ombre. Eh bien, le Christ est conçu miraculeusement, voilà, sans qu'on ait à participer. On a juste à l'accueillir, à l'adopter. Et ça, finalement, c'est le pari de la foi, dans un sens, si vous voulez. Et ça, je trouve que finalement, le programme que nous propose Matthieu est, dans un certain sens, plus modeste, voilà, et peut-être nous convient mieux, voilà. On a à accueillir quelque chose de divin qui était déjà au plus profond de nous, qui nous est déjà donné, qu'il faut reconnaître, accepter, avec humilité, parce qu'on se dit, ben voilà, on aimerait se faire nous-mêmes, finalement, à la force du poignet. Eh bien là, on nous dit, ben en fait, le meilleur part de toi-même, c'est pas toi qui la fabrique, elle est déjà au plus profond de toi-même, reconnais-la, adopte-la, laisse-la grandir, veille sur elle finalement, protège-la comme va le faire Joseph, et puis, eh bien, ça sera, voilà, ça, l'enfant de Dieu, le salut de Dieu qui naît dans ton sein, voilà, finalement. Et ça, je trouve que c'est assez sympa. Et c'est vrai qu'on le retrouve, si vous voulez, ailleurs dans Matthieu, par exemple, quand il nous dit un peu plus loin, dans le début vraiment de la prédication de Jésus, les béatitudes, bien entendu, hein, heureux les pauvres en esprit, mais ensuite il dit, vous êtes la lumière du monde. Il ne nous dit pas, soyez un peu lumineux, saisissez la lumière que Dieu vous donne, et à ce moment-là, votre vie sera éclairée. Non, il y a marqué, que vous le vouliez ou non, que vous le sachiez ou non, vous êtes habité d'une lumière, qui est la lumière même de Dieu. Voilà. Et cette lumière, elle est faite pour briller sur le monde entier. Cette lumière qui est en vous est indispensable pour le salut du monde, comme le Christ l'est pour le salut du monde. Alors, dans cette prédication, dans Matthieu 5, donc, on dit cette lumière, elle est peut-être cachée sous un boisseau, cachée sous un seau, mais finalement, même si elle est cachée, elle est encore là, au plus profond de vous-même. Alors finalement, qu'est-ce qui serait arrivé dans cette histoire si Joseph n'avait pas adopté le Jésus qui était dans le sein de Marie? À mon avis, au sens historique, à mon avis, Dieu a de la ressource, et bon, si Marie et Joseph avaient fait obstacle à la volonté de Dieu, il y a cette liberté, oui, cette liberté de l'homme, eh bien Dieu aurait trouvé d'autres solutions, d'autres Joseph, d'autres Marie, voilà, plus tard, autrement, mais en fait, bon, ils ont accepté. Alors sinon, au point de vue symbolique ici, si nous sommes ce Joseph, quelque part, nous sommes enceintes d'un enfant que nous n'avons pas conçu, qui nous est donné, qu'on a juste à adopter. Si on ne l'adopte pas, eh bien, à mon avis, la Marie de l'histoire, à ce moment-là, resterait enceinte indéfiniment jusqu'à ce qu'on finisse par adopter ce Jésus et qu'on l'aide à grandir, à évoluer et à être source de salut en nous. Donc, je pense que C'est comme ça qu'on pourrait réinventer l'histoire si Joseph disait non.
Et nous avons ici tout à fait l'exemple même du Midrash que j'évoquais, ce genre littéraire qui est une sorte de réécriture, un petit peu comme vous savez, c'est palimpseste, c'est parchemin du Moyen-Âge qu'on regrattait, sur lesquels on réécrivait. Je pense que beaucoup parmi mes élèves de lycée confondent Joseph, l'époux de Marie, et le patriarche Joseph, dont l'histoire, Joseph et ses frères, est un gisement de potentialité narrative. Thomas Mann en a fait tout un cycle de plusieurs romans. Eh bien, en fait, ici, tout est fait pour qu'on confonde les deux personnages, parce que précisément, je pense que l'écrivain biblique s'amuse à superposer les deux figures. Joseph, le fils de Jacob, le fils préféré de Jacob, qui suscite la jalousie de ses frères, et puis Joseph, l'époux de Marie, parce qu'en effet, cette annonciation ne se fait pas comme chez Saint Luc, qu'il n'y a pas un ange qui arrive dans la chambre de Joseph, mais nous avons un songe. Il lui apparut en songe. Et vous savez que après le départ des mages, à nouveau, Joseph sera prévenu en songe. Et l'homme au songe, l'homme des songes, dans la mémoire biblique, c'est bien Joseph, le fils de Jacob. Donc il y a ici quelque chose qui fait signe vers cet homme au songe. Et si on se souvient en plus que le patriarche Joseph sauve sa famille en s'exilant en Égypte, rappelez-vous comment dans l'évangile de Matthieu, après le déchaînement de démesure et de colère du roi Hérode, comment Joseph sauve sa progéniture? C'est bien en allant en Égypte, dans une sorte de récit qui prolonge ce Midrash. Donc on a à la fois les songes et à la fois l'Égypte, qui n'est pas l'Égypte d'où viennent tous les maux d'Israël, mais au contraire l'Égypte qui accueille et l'Égypte qui est la terre qui permet ensuite le retour en terre promise dans l'Exode et le retour à Nazareth pour Jésus. Donc vous voyez, c'est ça un Midrash. Ça ne veut pas dire, vous voyez bien qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Il ne faut pas jeter le berceau de Jésus sauvé des eaux de la mort avec celui de Moïse. Il faut au contraire essayer de voir que le Midrash est un outil narratif pour les scribes qui écrivent ce témoignage, qui essaient de s'interroger qui était ce Jésus qui est mort crucifié. Ces textes sont écrits 30 ans ou 40 ans après les événements de la Pâque de Jésus, et donc voilà, ce Jésus a bien eu une enfance, etc. Donc il s'agit de retisser un récit cohérent à partir de bribes de témoignages, et peut-être aussi de lui donner du sens à la manière dont on donne du sens dans le monde hébraïque et sémitique, c'est-à-dire avec des récits. D'autre part, je suis frappé par ce que tu dis, effectivement, et je pense que ce texte nous révèle que nous n'avons pas à nous façonner Jésus, hein, que nous ne concevons pas. Nous avons le travail de l'engendrement divin à se laisser opérer en dehors de nous et en nous. Et ça me faisait penser que bien des observateurs de notre culture contemporaine disent qu'il y a une grande pression aujourd'hui sur le présent, que beaucoup de gens vivent d'ailleurs dans un pur présent, d'une certaine manière, à la fois amnésique sur le passé et imprévoyant du futur, comme les époques justement de mutation. Et notre postmodernité est souvent effectivement obsédée par le présent, par l'immédiat. Or là, nous avons exactement le contraire. Nous voyons un homme qui, d'une certaine manière, s'inscrit entre un passé, qui est cette prophétie d'Isaïe, qui a quand même déjà 6 siècles à l'époque. 6 siècles, ça n'est pas rien. Je ne sais pas quelle était la conscience du temps qui passe chez un juif de Palestine du 1er siècle, chez un artisan, mais évidemment un passé prestigieux, et puis de l'autre côté un futur des paroles d'accomplissement, tu donneras le nom de Jésus, etc. Elle mettra au monde. Vous voyez, donc, le présent n'est pas l'objet, comme pour nous, d'une espèce de challenge ou de performance. Il n'y a pas une dictature de l'immédiat, comme le monde de la technologie peut l'engendrer, d'ailleurs pour le meilleur comme pour le pire, c'est à nous de découvrir aussi. Eux, ils avaient le Midrash, nous avons d'autres instruments. Mais il n'y a pas cette dictature de l'immédiat, au contraire, nous voyons un monde qui n'est tissé que de médiation. Et on envie, on se prend à envier Joseph et à se dire, mais oui, non pas qu'il se retranche, vous voyez bien que sa responsabilité d'homme n'est pas du tout mise en cause, il a à accepter et à se prononcer et à consentir au dessein de Dieu, mais en même temps, j'envie cette manière de s'inscrire dans une histoire de manière à la fois harmonieuse et redoutable, parce que ce qui lui arrive est proprement vertigineux, puisque c'est absolument unique dans le processus d'hominisation, ai-je envie de dire, dans cette espèce de cosmogénèse théilardienne. Voilà, il y a cette espèce de mutation irréversible qui s'opère dans le mystère de l'incarnation. Donc il y a à la fois le vertige du nouveau, de la nouveauté radicale, et en même temps, c'est rassurant d'être dans une tradition, de se savoir précéder, de pouvoir s'inscrire dans cette culture et de laisser Dieu travailler cette pâte, de laisser Dieu féconder son Fils à travers son propre consentement. Donc voilà, je fais un peu d'exégèse spirituelle, mais je crois que plutôt que effectivement s'attarder et se demander ce que ça veut dire être accordé en mariage, vous connaissez le statut des fiançailles hein, dans le monde juif de l'époque, c'est un mariage effectivement, même si l'accordé, la fiancée ne vit pas sous le même toit, il faut un acte de répudiation publique pour pouvoir casser le contrat qui est déjà présent dans les fiançailles. De même, on peut s'interroger bien sûr sur la justice de Joseph. Au verset 19, Joseph qui était un homme juste. Alors pourquoi est-il juste? Le juste, c'est celui qui obéit à toutes les prescriptions de la loi, et la loi demande de répudier. Est-ce que ça veut dire que précisément Joseph va être juste en répudiant Marie, ou au contraire fait-il preuve d'une justice plus juste, et donc Matthieu laisserait entendre que la loi demande déjà d'être vécu, d'être interprété, de passer par le cœur. Et donc, est-il juste en découvrant ce qui se joue, ce qui se trame? Mais en même temps, on nous parle d'une répudiation, mais d'une répudiation secrète, vous voyez? Alors que la répudiation doit être publique. Alors, vous voyez, cette justice de Joseph, elle est très, très difficile à interpréter, mais je pense que le mot « juste » ici, « dikaios » en grec, est un indice que laisse Matthieu pour nous suggérer que en Joseph s'opère un approfondissement de la justice. Qu'être juste n'est plus simplement être aliéné peut-être à une conception littérale de la loi, mais découvrir que la loi, précisément elle-même, vient s'incarner dans une histoire humaine.
Oui, mais je crois que tu as raison. Quand il y a marqué, toujours dans la Bible, quand il y a marqué « quelqu'un est juste », par exemple, on dit que Noé était un homme parfait, ou bien qu'on le dit aussi pour Jacob, justement, hein, que c'était un homme parfait. Mais je crois qu'il y a toujours là un indicateur, ou Noé qui était un homme juste, c'est ça. Donc je crois que c'est toujours un indicateur pour dire, voilà, on vous parle là d'un type d'homme, comme on sait très bien, et ils n'étaient pas plus naïfs, que personne n'est 100% pur juste, donc c'est clair. Donc là, effectivement, il y a un nouveau type de justice qui est tout simplement celui du pardon, celui de la grâce, celui de faire le minimum de tort possible. Alors, ils cherchaient comment faire pour pas qu'elle soit lapidée, finalement, parce que c'était le sort de cette femme-là, hein, dire qui aurait commis l'adultère dans cette circonstance-là. Alors ensuite, moi, je trouve qu'effectivement, au début du verset 20, il y a un petit programme qui nous est proposé, Voilà, il y a quelque chose qui est un peu surprenant qui lui arrive. Mais là, c'est pas marqué, en fait. Il avait formé ce projet, voilà. C'est pas très clair, en fait. C'est comme il y pensait, finalement. Et donc, il y a l'idée, je crois, vraiment d'une réflexion, de savoir... voilà, une réflexion, je dirais, consciente, intelligente sur ce qui arrive. Et finalement, dans cette réflexion, il va y avoir l'irruption de quelque chose qui est de l'ordre de la foi, de la rencontre. Alors, il y a marqué un ange. Et là, c'est vrai que l'ange vient en songe. Alors, c'est vrai qu'il y a un clin d'œil avec le Midrash, donc avec l'histoire de la Genèse, avec le Joseph patriarche. Mais je trouve que ça aussi, c'est un peu rassurant pour nous. C'est-à-dire, on nous propose déjà d'avoir une démarche d'intelligence, de réflexion sur notre propre existence, et ensuite d'être ouvert à un ange. Bon, mais qu'importe si ce n'est pas un ange avec des plumes au sens d'une créature, auquel je ne crois pas, bien sûr. Mais à travers cet ange qui vient en songe, eh bien, c'est quelque chose qui est immatériel, qui est de l'ordre de l'expérience spirituelle, qui est de l'ordre d'un éclairage que Dieu nous donne. Tout d'un coup, on se réveille le matin avec peut-être voilà, des nouvelles pistes, quelque chose qui peut venir de Dieu. Alors ça demande bien sûr de la prudence, hein. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il faille entrer dans l'interprétation des rêves. Là, je pense qu'on est de toute façon dans quelque chose de peu sérieux, si vous voulez. À ce moment-là, c'est de l'ordre, ça devrait être fait par un psychanalyste, tout simplement, mais interpréter ses rêves comme prémonitoires ou je ne sais quoi, ça n'a pas de sens. Mais par contre, je pense qu'on nous parle là simplement d'une expérience spirituelle. L'alliance entre la réflexion qui ouvre à l'intelligence spirituelle. On verra dans l'Évangile selon Luc, c'est presque l'inverse finalement. Il y a cette irruption de l'ange chez Marie, et puis ensuite il y a une démarche de recherche, de compréhension, d'intelligence de ce qui lui arrive. Ça peut être dans un sens, ça peut être dans l'autre, mais l'un comme l'autre des textes de l'Évangile nous disent qu'il faut qu'il y ait les deux finalement. L'intelligence, la réflexion consciente, intelligente, et puis quelque chose qui est nouveau, qui vient de Dieu et qui apporte cette dimension de nouveauté. Et là aussi, je trouve qu'on retrouve eh bien, la généalogie qui représente la pâte humaine, notre existence telle qu'elle est, cette irruption de Dieu qu'apporte le salut, eh bien, dans la manière dont nous conduisons notre existence et nos projets, il y a la même chose. Il y a ce que nous sommes, notre réflexion personnelle et cette irruption de Dieu qui vient apporter un supplément de justice. Joseph, il avait un bon fond, finalement, à travers cette idée de pardon, d'amour pour Marie, malgré sa faute, enfin, faute supposée et qui pensait, faute peut-être réelle aussi, si on suit le témoignage des Juifs du Talmud. Eh bien, il va découvrir quelque chose de plus grand encore à travers la foi, à travers cette irruption de Dieu qui va lui donner une autre piste, finalement, qui va être celle d'adopter donc cet enfant. Voilà. Alors, il y a marqué « L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit ». Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le verset 20? Il y a marqué voilà, « L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint ». En fait, si on prend le texte grec tel quel, il y a marqué « Ce qui a été engendré en elle de l'Esprit est saint ». C'est un peu ambigu parce que ce qui a été engendré en elle, voilà, ça peut être soit l'enfant, mais quand on relit ça pour nous dans une lecture spirituelle, c'est pas forcément un enfant parce que nous sommes d'abord en étant des hommes mâles, si vous voulez, on aura du mal à concevoir un enfant de manière miraculeuse, bien que bon, Dieu pourrait peut-être se débrouiller de le faire quand même, mais enfin, c'est une autre question. Mais ce qui est engendré en nous, eh bien, c'est l'enfant de Dieu que Dieu engendre en nous, finalement. C'est le Christ que Dieu engendre en nous. Ça vient de l'Esprit, et ça, c'est vraiment saint, finalement. Ça, c'est vraiment saint. Alors, cette Marie qui est ici, dans cette histoire de selon Matthieu, on a l'impression que c'est un peu un objet, finalement. Hein? Elle n'est rien. Ben, en fait, c'est le contraire, je crois. Parce que Marie, ici, finalement, c'est le lieu où Dieu conçoit son enfant. Et donc c'est un lieu très mystérieux en nous, de la présence même de Dieu, de l'Esprit en nous. On pourrait dire que c'est la foi de l'homme, Marie, dans cette histoire. C'est notre foi, ça représente la présence, c'est l'Esprit Saint en nous, si vous voulez. C'est ça, voilà. c'est le fruit de l'Esprit Saint en nous, le fruit de l'amour en nous. Alors que Joseph, là, il exprime plus peut-être la dimension humaine de notre existence, cette dimension, bah oui, physique, à travers l'ADN, à travers la culture, comme tu le disais aussi, qui nous vient, voilà, et qui nous a fait tels que nous sommes, à travers la réflexion intelligente aussi sur ce qui nous arrive, cette réflexion comme nous le pouvons, avec nos limites, et puis la découverte que dans cette partie divine de notre famille, de notre être que nous aimons, eh bien, il y a quelque chose là qui est conçu et qui dépasse infiniment ce que nous sommes autrement. Voilà, donc je pense que si on peut avoir là des pistes peut-être d'appropriation de ces textes.
Et avant de passer à l'annonce à Marie chez Luc, juste peut-être quelques remarques sur la donation du nom. Au verset 23, Matthieu reprend le fameux verset que l'on trouve au chapitre 7 de Isaïe. Voici que la Vierge concevra, alors je ne m'attarde pas sur l'ambiguïté, en hébreu, Alma, c'est la jeune fille, Parthénos, effectivement, il y a plus l'idée de virginité. La Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Dans le texte hébreu, comme dans le texte de la Septante d'ailleurs, donc le texte grec, c'est « auquel elle donnera le nom d'Emmanuel ». La prérogative dans le monde patriarcal, sémitique, c'est pour le père d'être celui qui donne le nom. La paternité, c'est non seulement engendrer, c'est non seulement transmettre l'image, et nous sommes fils de Dieu parce qu'il y a l'image de Dieu qui passe de façon héréditaire à travers toute la lignée qui vient jusqu'à nous, mais la donation du nom, qui est peut-être plus arbitraire, est aussi le privilège de l'homme. Et effectivement, ici, Matthieu donc corrige un petit peu la prophétie d'Isaïe qui disait que c'était la mère, la reine, en fait, qui donnerait le nom. Et ce nom, qui donc insère Jésus dans une tradition, dans un lignage davidique, ce nom, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Alors ici, bien sûr, nous sommes déjà du côté de la Nouvelle Alliance, et ce nom est une titulature de révélation. Ici, comme pour Marie tout à l'heure, Joseph est bien l'interlocuteur d'une révélation. C'est-à-dire qu'Emmanuel, c'est pleinement Dieu avec nous et d'une présence telle que peut-être même le prophète Isaïe ne pouvait pas imaginer ce qu'elle signifiait. Donc Matthieu ici vient déployer toutes les virtualités théologiques qui sont dans cette appellation. Parce que de fait, l'enfant s'appellera Jésus. Il ne s'appellera pas Emmanuel et il n'a pas de prénom. Mais il sera l'Emmanuel. Vous voyez que ici, on n'a pas besoin de trafiquer en disant on a hésité sur son nom, etc. Non, Matthieu prend son lecteur pour un adulte et le lecteur comprend bien qu'Emmanuel, ici, c'est un titre qui est donné à Jésus. Et cette présence de Dieu, cette présence de l'Esprit sur Jésus n'est pas à la manière prophétique. Par exemple, on nous dit dans l'Ancien Testament que l'Esprit repose sur Samuel, que l'Esprit repose sur Saül, même que l'Esprit vient fondre sur Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel. Ici, c'est autre chose. C'est un autre type de présence. C'est-à-dire que non seulement Dieu est avec cet enfant, mais cet enfant va être lui-même la présence de Dieu dans l'histoire. Donc c'est ça l'inouï de cette révélation. C'est-à-dire qu'Emmanuel, ici, c'est au sens le plus absolu, c'est la présence même du Dieu d'Israël dans l'histoire et dans la chair des hommes. Alors, je pense qu'on peut peut-être maintenant lire le texte de Luc. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Ensuite, nous avons la visitation, où Marie, première disciple du Christ, d'une certaine manière, première disciple, s'acquitte de sa mission. Quelle est la mission du disciple? Transmettre la bonne nouvelle, transmettre l'évangile, et elle est mise en mouvement. Vous voyez, il y a un dynamisme, elle ne reste pas comme sur nos vitraux, les mains jointes devant la nostalgie de cette apparition. Au contraire, elle agit, c'est une jeune fille vive, elle va voir sa cousine. C'est, tout ça est magnifique, hein, soit dit en passant. Le sixième mois, alors c'est très intriguant quand nous lisons ça dans nos liturgies, cette péricope, le sixième mois, c'est bien sûr, on a la clé d'ailleurs à la fin, c'est le sixième mois de la grossesse d'Élisabeth, c'est six mois après l'annonce faite à Zacharie. Et personnellement, ça m'a toujours beaucoup touché de voir que ces deux scènes sont juxtaposées dans le premier chapitre. Nous avons l'apparition à Zacharie, Zacharie est au sommet de sa carrière sacerdotale, puisqu'il est dans le Saint, non pas dans le Saint des Saints, mais devant le Saint des Saints, il est à l'autel des parfums. Et sur le parvis d'Israël, tout le monde, tout le peuple attend. Et Zacharie est seul face à l'autel des parfums. Quelle était la fonction d'un prêtre? Il n'est pas grand prêtre. Un prêtre doit, vous savez, on est prêtre de père en fils, hein, on est Cohen de père en fils. Donc Jean-Baptiste sera prêtre, bien sûr. Jean-Baptiste est prêtre de l'Ancienne Alliance. Quel est l'office d'un prêtre? C'est tous les soirs, pendant une semaine, une fois dans l'année, pendant une semaine, d'aller remuer les braises de l'autel des parfums, de verser quelques grains d'encens, peut-être un peu de gros sel, comme on faisait pour que le brasier soit absolument magnifique. Et voilà. Et devant, il y a le rideau du Saint des Saints. Donc, on est au cœur même du système religieux du judaïsme de l'époque. Et voilà que, immédiatement après, le même personnage, Gabriel, on va voir pourquoi d'ailleurs, cet archange, vient dans une bourgade qui est totalement ignorée de l'Ancien Testament, qui n'apparaît pas sur les cartes de l'époque, qui est un petit village troglodyte. Si vous êtes allé en Terre Sainte, vous savez à quoi je fais allusion. Luc parle d'une ville, mais Luc utilise le même terme de ville pour Capharnaüm et pour les autres bourgades. Il s'agit bien d'un tout petit hameau. Donc vous voyez, comme on dit toujours, d'après le livre du Siracide, Dieu ne fait pas acception des personnes. Dieu voit d'un même regard cette jeune fille, fiancée à un artisan d'une bourgade complètement paumée de Galilée. La Galilée est regardée de très haut par les Judéens, puisque les Galiléens sont suspects d'être des métis, d'être finalement à moitié des païens, puisque les Assyriens, au moment de l'invasion assyrienne, avaient déporté un certain nombre de Galiléens et s'étaient mariés, avaient épousé des Galiléennes. Donc vous voyez, on est transporté, c'est quasiment hollywoodien, on est transporté du centre du système cultuel, du temple de Jérusalem, qui est l'endroit le plus prestigieux, le plus massivement signifiant pour un juif de l'époque, tout d'un coup dans un endroit complètement perdu sur la carte, voilà. Et c'est la même révélation, et c'est même une révélation plus haute qui se joue ici. Gabriel dit à Zacharie, ton fils sera grand devant le Seigneur. Ici, nous avons tout simplement, il sera grand. Sa grandeur est absolue, elle n'est plus relative. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une différence ontologique, une différence essentielle, une différence de nature entre Jean, le Baptiste, le futur Baptiste, et Jésus, qui effectivement est grand d'une grandeur absolue. Alors, évidemment, il y a cette salutation, « Je te salue, comblé de grâce », où là, on est encore dans le Midrash. C'est le fameux kairé en grec, c'est-à-dire, à vrai dire, ça n'est pas je te salue, c'est réjouis-toi. Mais kairé équivaut à la salutation latine ave, hein, ave Maria. Donc, kairé, c'est réjouis-toi. Réjouis-toi comblé de grâce. Pourquoi peut-on parler d'un midrash? Parce que si vous avez en tête certains textes de l'Ancien Testament, dans le livre de Sophonie en particulier, vous avez « Réjouis-toi, fille de Sion ». Les catholiques ont chanté ça pendant des années, « Fille de Sion, réjouis-toi, car le Seigneur est en toi ». Voilà, donc c'est un texte que l'on trouve effectivement plusieurs fois sous la plume des prophètes. La fille de Sion, c'est Jérusalem. Jérusalem, la ville sur le mont Sion. Donc ici, Marie est assimilée à Jérusalem. Elle est le nouveau temple que j'évoquais tout à l'heure. Il n'y a plus de... Le temple, vous voyez, devient second. La grandeur du temple devient seconde par rapport à cette fille de Sion, cette nouvelle fille de Sion qui incarne complètement les attentes et les promesses et la fidélité à la foi d'Israël. Voilà, donc il y a quelque chose là dans cette salutation angélique. Alors encore une fois, il s'agit d'une expérience spirituelle, bien sûr, il ne s'agit pas de visualiser. Nous avons une tradition iconographique très riche et les annonciations de Fra Angelico sont magnifiques, mais si nous savons bien les regarder, nous voyons à quel point ce qui est premier dans les grandes annonciations peintes, c'est la réaction de Marie, cette espèce de timidité, et en même temps de transparence, à la fois timide et prête à dire oui. Alors que Zacharie lui avait dit « Oh ben, donne-moi un signe », parce qu'il doute. Et Gabriel, évidemment, lui donne comme signe « Bien, écoute, tu te tairas », et il lui cloue le bec et il l'empêche de parler. Alors que Marie, quand elle demande « Comment cela va-t-il être possible ?», l'ange répond sous forme de révélation précisément. Donc ce qu'il faut bien voir ici, c'est donc en dehors de l'imagerie peut-être traditionnelle qui est très belle, c'est que ce qui arrive à Marie, qui est complètement inouï, n'est pas l'objet d'une contrainte. Elle n'est pas, malgré les apparences, puisque sa situation matrimoniale n'est pas claire, eh bien, elle n'est pas piégée. Elle n'est pas prise au piège d'un scénario qui la dépasserait et dans lequel elle ne serait, comme tu disais, effectivement, dans lequel elle ne serait qu'un instrument. Au contraire, il y a, et je pense que c'est l'intention profonde de Luc, il y a une liberté... d'une telle fraîcheur et d'une telle naïveté au sens premier, c'est-à-dire au sens natif du mot, que cette liberté du oui de Marie, il faut y croire, il faut par tout le dynamisme de la foi entrer dans la contemplation de ce miracle d'intimité avec l'engendrement spirituel. Et c'est ce que j'évoquais avec Dérulle, qui ne cesse de se dire « Mais comment est-ce possible ce point de contact entre le monde humain, le monde divin, et pourquoi là, pourquoi à cet endroit ?» Il y a cette absurdité de l'arbitraire historique. Et c'est précisément là que Dieu intervient, parce que ça n'est pas au temple, c'est précisément parce que Joseph n'est pas prêtre, parce que on est dans quelque chose... d'ignorer et d'obscur, que le travail de révélation se fait. Alors Gabriel, pourquoi Gabriel? Eh bien, dans le canon des Écritures à l'époque, le canon juif des Écritures se terminait par le livre de Daniel. Le livre de Daniel n'était pas rangé avec les grands prophètes. Le livre de Daniel était à part, il était rangé avec les Ketuvim, c'est-à-dire avec les autres écrits, comme le livre de Job. Et à la fin du livre de Daniel, il y a Gabriel. Vous voyez, c'est le lien qui est fait. Voilà, on nous dit Jésus descendant d'Abraham, on remonte au plus lointain, et en même temps, on fait le lien, on fait la jointure, on fait la suite, la ligature avec l'Ancienne Alliance.
Alors moi, le sixième mois, j'ai l'impression que, bon, effectivement, on peut le lire comme dans l'histoire qui précède, mais c'est le cas. Mais quand même, ils font attention, à mon avis, de le séparer en disant, voilà, c'est pas au sixième mois de la grossesse, il met, or, au sixième mois, fut envoyé l'ange Gabriel. Et à mon avis, quand on voit ça, le 6, assez souvent, on a, par exemple, Jésus sur le puits de la Samaritaine, on dit... C'est comme une sixième heure. Alors les traductions aplatissent ça en disant c'était environ midi. Alors un peu plus, ils nous mettraient, ouais, c'était l'heure du casse-croûte ou je ne sais pas quoi. Mais alors que si vous voulez, surtout dans ces récits, on l'a vu, qui sont extrêmement riches d'allusions au Premier Testament, le 6, c'est la création du monde. C'est la fin de la création du monde matériel. En fait, c'est le moment où on crée l'homme. Où on crée l'homme, le soir du sixième jour. Et qu'est-ce qui manque encore pour que la création soit achevée? C'est la bénédiction de Dieu, finalement. Bénédiction qui arrive, là, justement, en fait, directement. Bénédiction qui est donnée à Marie. Donc, en fait, il est bien question, là, à travers ce sixième mois. Parce que, si vous voulez, en quoi est-ce que notre salut serait définitivement marqué par le fait que ce soit le sixième mois de la grossesse d'Élisabeth? On aurait pu nous dire, oui, bon, alors... Un peu après, Marie tombe enceinte aussi, et puis elle va visiter sa cousine qui était toujours enceinte, parce que, ben, on n'en a rien à faire, si vous voulez. Oh, ça ne concerne absolument pas notre salut. Ils ne sont pas là en train de nous raconter une petite légende pour rigoler, si vous voulez. Au sixième mois, il y a là quelque chose qui se dit, voilà, on est tout d'un coup dans la création de l'homme, de l'humain, en chacun de nous, finalement. Et en Marie aussi, d'une manière décisive et ultime, comme tu dis, voilà, il y a une pliure dans l'histoire, là. Physiquement, historiquement, en l'an peut-être moins 5 ou moins 6 avant Jésus-Christ, si je puis dire, de notre calendrier en tout cas, il y a là bien une pliure historique marquée, il y a un début et un après de cette conception de Jésus. Mais en nous aussi, finalement, ça nous dit, voilà, il n'y a pas simplement la conception de Jésus de Nazareth, il se joue là la création de l'être humain, si vous voulez. Dans, justement, cette humble gamine, finalement. Mais en nous aussi, il s'agit, voilà, à travers la visite de l'ange, la force de Dieu, Gabriel, ça veut dire la force de Dieu, ça va se manifester par le don d'une bénédiction. Et j'ai bien aimé ce que tu disais, ce à propos que, voilà, c'est, que Marie, c'était, le texte en faisait la nouvelle Jérusalem, ou la Sion, finalement, qui reçoit la bénédiction de Dieu. Et effectivement, le temple de l'Esprit, ce n'est plus le temple de Jérusalem, dans un certain sens, c'est Marie qui devient, et c'est ce que nous dit Paul, finalement, dit « Vous êtes le temple de l'Esprit ». Et ça rend la personne humaine extraordinairement sacrée, c'est-à-dire nous sommes le temple de l'Esprit, et c'est en nous que se réalise cette conception nouvelle. Et cette bénédiction qui est donnée, si vous voulez, voilà, c'est ça, l'ange entra chez elle et lui dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » C'est une bénédiction qui est donnée à chacun de nous, bien entendu. Le Seigneur est avec toi, c'est la bénédiction donnée à Abraham, d'ailleurs. C'est un renversement assez extraordinaire, parce que souvent dans les religions, où on s'imagine encore, si vous voulez, que la religion, c'est « Soyez bien sages, soyez bien religieux, ouvrez-vous à l'Esprit-Saint, à ce moment-là, vous serez bénis. » Mais c'est pas ça, si vous voulez. La bénédiction qui est donnée à Abraham, la bénédiction qui est donnée ici à Marie, que tu le veuilles ou non, le Seigneur est avec toi. C'est ce qui est donné à Abraham, voilà, tu es béni, tu seras source de bénédiction, maintenant avance. Mais avant même qu'il avance, il aurait pu dire, finalement, j'ai pas tellement envie d'avancer, d'aller quelque part, mais il était béni quand même. Et là, le Seigneur est avec toi, c'est donné quand même. Et il y a là le Dieu qui se fait serviteur, qui est à la remorque de l'homme. Et c'est ce que d'ailleurs ces bénédictions qui sont répétées ensuite au patriarche, à Isaac, et surtout à Jacob peut-être d'ailleurs, avec marqué, l'Éternel lui dit, je serai avec toi. Où que tu ailles, je t'accompagnerai. Et si tu vas un peu n'importe où, eh bien je t'aiderai à revenir, à retourner dans la terre de la promesse. Donc il y a là bien, si vous voulez, l'idée d'un Dieu qui est serviteur, qui se fait notre serviteur et dont la force est d'être à notre service. On a ça quand même des fois dans le Premier Testament aussi. Vous savez, cette bénédiction que j'aime beaucoup, hein, qui est donnée dans Nombre 6, bénédiction qui est donnée pour qu'on bénisse les gens. Hein, c'est... Il y a Dieu qui dit à Moïse, voilà, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Voilà comment on les bénirait, et on les bénit au singulier. Tu sais, l'Éternel te bénit et te garde, l'Éternel fait briller sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Ça, c'est incroyable. L'Éternel, le Seigneur, Yahvé, lève son visage vers toi, comme s'il était en dessous de nous, si vous voulez, et qui nous bénit au singulier. Donc, si vous voulez, ça, dans ces passages très forts du Premier Testament, c'est ça, à mon avis, qui est invoqué ici. Cette humble fille, une fille, hein, comme tu disais, d'un pays suspect de mélange, on dit la Galilée des nations, voilà, c'est tout mélangé. Cette fille, c'est la nouvelle Ève, la nouvelle Abraham, la nouvelle Sion, c'est elle le temple de l'Éternel. C'est tout cela qui est invoqué ici, si vous voulez. Alors qu'elle ne comprend pas grand-chose, finalement, elle hésite, elle ne comprend pas, elle est pleine de doutes, elle aussi. Donc les doutes, nous pouvons en avoir, bien entendu. Hein. De la crainte, des doutes, tout ça. Alors bon, l'ange ne se fâche pas, il répète encore cette même bénédiction en lui disant qu'il n'y a rien à craindre et lui annonçant la suite. Et puisqu'on en est dans le Midrash, voilà, je crois que la fin, hein, le oui de Marie, finalement, hein. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Eh bien, on a la nouvelle Ève qu'elle a, si vous voulez. Donc, on nous dit, voilà, Adam et Ève, c'est vous. Et Marie, c'est vous. Et que c'est cette création d'un homme tel que Dieu l'a toujours rêvé, imaginé, qui serait son fils. Eh bien, c'est en vous que ça doit être conçu. C'est en vous que Dieu espère s'incarner, voilà, à travers cette puissance de bénédiction qu'il nous offre.
Alors bien sûr, je crois que il faut être assez clair, et je parle sous le couvert de 2000 ans, de 2 millénaires de théologie. Jésus n'est pas Dieu parce que Marie est vierge. Il faut bien être clair là-dessus, ça n'est pas parce que Marie est vierge que Jésus est Dieu. Vous voyez bien, on n'est pas dans le cas des grands récits, des mythes grecs ou romains. On n'est pas dans le cas de la procréation d'un demi-dieu dont le père serait Jupiter et la mère une pauvre mortelle.
Comme Achille
ou comme Léda avec Zeus qui devient un cygne, ou oui. Hélène demi-déesse, etc. Et on a tôt fait peut-être de projeter sur ces textes qui, comme tu le dis, ne sont pas des petites légendes écrites comme ça, ce sont des textes absolument qui touchent au fondamental. Donc Jésus n'est pas Dieu parce que Marie a été préservée de l'union avec l'homme. Et d'ailleurs, alors c'est très rare que je parle sous le couvert du pape actuel, mais Josef Ratzinger, lorsqu'il était théologien, dans un livre qui a été réédité dernièrement, qui est très très beau, La foi chrétienne hier et aujourd'hui, le disait, d'ailleurs je peux citer, parce que je trouve que c'est très clair, la filiation divine de Jésus ne repose pas, d'après la foi la plus ancienne et la plus traditionnelle de l'Église, sur le fait que Jésus n'a pas eu de père humain. La doctrine de la divinité de Jésus ne serait pas mise en cause, c'est quand même Benoît XVI qui le dit, la doctrine de la divinité de Jésus ne serait pas mise en cause si Jésus était issu d'un mariage normal. Il faut le dire. Donc il faut maintenir, non pas l'incertitude, mais l'intimité de Marie. Moi je pense qu'on a trop multiplié les spéculations, les spéculations gynécologiques, oui, qui sont hors de propos avec un personnage aussi vénérable qui, dans le Proche-Orient ancien, était la mère. Enfin, quand on pense qu'elle est au Cénacle, etc., elle devait être vénérée avec beaucoup de respect, et les gens n'étaient pas en train de se demander ce qui était passé, ce qui s'était passé à l'origine de la vie de Jésus. Donc vous voyez bien, c'est presque pour des raisons morales qu'il ne faut pas trop s'attarder effectivement sur ces questions. La filiation divine est une filiation selon l'esprit. Ça ne veut pas dire que j'amoindris la portée du texte, bien sûr que non. Au contraire, l'esprit, c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus vaste, de plus transcendant, de plus ce qui nous ouvre à un surcroît d'être, de vie, et qui nous ouvre à la plénitude. Donc, de grâce, si j'ose dire, maintenons sur ces réalités un voile de raison qui maintient ces choses dans... le clair-obscur d'une chambre nuptiale à Nazareth. Et maintenons que Jésus est Dieu, que sa filiation divine est un engendrement selon l'Esprit, qui n'a rien à voir avec la procréation des demi-dieux, d'Hercule ou que sais-je. Et Jésus n'est pas non plus un avatar, comme disent les hindous lorsqu'ils parlent de ces... c'est très beau d'ailleurs, j'ai une passion pour l'hindouisme. Vous savez, les dieux hindous peuvent venir sur Terre et comme on dit quelquefois, ils s'incarnent, mais il ne s'agit pas du tout d'incarnation. Ils revêtent une apparence, etc. Non, ici, on est vraiment dans, et la théologie l'a dit depuis longtemps, les premiers conciles l'ont dit, Jésus est totalement homme et totalement Dieu. Voilà. Et nous n'avons plus qu'à méditer et dans le silence de notre prière, à essayer d'entrer dans... je crois qu'on ne lit jamais trop ces textes. Tout à l'heure, j'ai lu le texte de l'Annonciation, je me disais, tiens, peut-être que beaucoup parmi nous ont l'impression d'avoir entendu ces textes des centaines de fois. Eh bien, je crois qu'au contraire, ces textes résistent. Précisément, c'est tellement beau, c'est d'une fraîcheur fulgurante, c'est tellement tissé de textes anciens, c'est tellement... d'une pudeur qui n'est jamais emphatique ou d'un lyrisme douteux. C'est un sommet de littérature qui fait taire la littérature. Donc il y a quelque chose qui passe, il y a un souffle divin, hein. On sent les ailes de Gabriel là, qui sont là. Donc je pense qu'à un moment il faut lire dans le silence ces textes et nous laisser pénétrer de leur vérité.
Oui, alors c'est vrai que moi je crois qu'effectivement ces textes sont un souffle absolument extraordinaire et une profondeur qui mérite que nous les méditions, que nous les repassions dans notre cœur, comme on nous le propose en Marie. Alors il n'y a pas marqué que Jésus est Dieu ici d'ailleurs, il y a marqué non. Fils de Dieu. Hein. C'est vrai que l'idée que Jésus serait Dieu, d'abord de dire que Jésus est Dieu, point, c'est considéré comme hérétique par les plus grands conciles. Bon, ça n'empêche pas, on a le droit d'être hérétique. Hérétique, ça veut dire celui qui choisit, ce qui me semble assez noble, en fait, si vous voulez, d'avoir son opinion personnelle. Donc, ce serait très bien de l'être hérétique si on y met toute sa conscience, sa bonne volonté et son amour pour Dieu. Mais, donc, Jésus est Dieu, point, c'est quelque chose qui est considéré comme pas orthodoxe, si vous voulez, qui n'a pas le label des grands conciles. Comme tu le disais très bien, mais ça mérite d'être à rappeler, ce que disent les conciles, du 4e siècle finalement, hein, qui développe surtout au 4e, 5e, etc., siècle suivant, c'est que Jésus est à la fois Dieu et homme, c'est une union relationnelle entre totalement Dieu et totalement homme. C'est difficile de savoir ce que ça veut dire exactement, et si on n'en est pas complètement persuadé, eh bien on peut laisser ça effectivement dans l'ombre des grands mystères, et se contenter de choses plus simples et peut-être plus vraies qui sont dans les évangiles simplement, où on nous dit que Jésus est fils de Dieu. Voilà. Qu'il y a du divin en lui, c'est-à-dire qu'il y a eu un engendrement divin en lui, et ça je crois que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Parce que si vous voulez toutes ces finesses pour savoir où s'arrête le Dieu et l'homme, vrai Dieu et vrai homme, est-ce qu'il y a une double volonté, une seule volonté là-dedans, qui sont... J'aimais bien ton idée de pudeur, si tu veux. J'ai l'impression, si vous voulez, qu'à travers ces conciles, cette théologie complexe de trinité, de choses comme ça, on va dire à Dieu, écoute mon petit gars, on va te mettre sur un divan, on va te psychanalyser pour savoir comment tu penses. Et on fait la même chose avec Jésus, qui objectivement, si vous voulez, apporte quelque chose d'ultimement important dans l'histoire de l'humanité, et on va lui dire, eh bien voilà, on va te disséquer le cerveau, les entrailles, le cœur et la foi, pour savoir où commence le cordon ombilical, est-ce qu'il en avait un, est-ce qu'il n'en avait pas un. Et puis, on fait un examen, on met Marie sur la table du gynéco pour savoir si elle était vierge ou pas vierge, machin. Ça n'a pas d'importance. Je crois que la vraie question, c'est la question d'aujourd'hui et maintenant, c'est comme Marie, si vous voulez, de se laisser féconder par l'Esprit. Et à ce moment-là, être vierge, ça a de l'importance, si vous voulez. Là, on n'est pas en train de faire de la gynécologie, je dirais, scabreuse, graveleuse, de savoir ce qu'il y avait sous les jupes de cette fille. Mais on s'intéresse à ce moment-là, finalement, à se garder vierge. Ça veut dire qu'il y a un moment, il faut ne pas faire de compromis et savoir quel est le vrai lieu de la fécondité, d'une fécondité ultime en nous. Voilà. Et se dire, bon, ben je vais essayer quand même de me bâtir des pyramides et quelque part, à travers ces pyramides que je bâtis, je m'assure vraiment une trace dans l'histoire et que je garde ma dignité et ma valeur seront dans la pyramide que je construis. Là, on se garde pas vierge, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on compte sur nos forces humaines pour assurer notre dignité ultime et notre avenir éternel. Et ça, c'est un vrai problème, ça, c'est de l'idolâtrie, c'est du blasphème, c'est de la fornication, voilà. Je crois que oui, on peut avoir des projets humains qui sont importants, qui sont beaux, mais ils doivent être des fruits, si vous voulez, de quelque chose de plus grand et de plus ultime, qu'est l'Esprit Saint, qu'est l'amour en nous, qu'est la foi, l'espérance, qu'est le respect de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de, voilà, vraiment de la vie de Dieu lui-même, qui soit notre espérance, qui soit la racine de notre être, la base de notre dignité, que ça soit là, finalement, que repose le tout de notre être, pour ensuite produire des fruits, si vous voulez, quelque chose qui vient ordonner notre existence tout entière. Mais comme le disent les philosophes, si vous voulez, on ne peut pas adorer à la fois Dieu et Mammon, si vous voulez. On ne peut pas avoir deux préoccupations ultimes en concurrence. Ce n'est pas possible. Il faut à ce moment-là que notre gestion de l'argent, par exemple, puisque Mammon, c'était le dieu de l'argent, on peut avoir une préoccupation de l'argent, il faut bien gérer le matériel, mais ça doit être subordonné à quelque chose de plus grand qu'est Dieu, qu'est la foi, qu'est l'espérance, qu'est l'amour, le respect de l'autre, etc. Voilà, il doit y avoir une hiérarchisation dans notre être des choses, et donc là il faut se garder vierge pour ce qui est du cœur même, du cœur profond, ultime de notre être, et je crois que c'est ça qui nous est dit à travers ce texte.
Et en effet, parce que je pense que tu as tout à fait raison, il faut maintenir le texte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop rapidement le traduire avec nos mots. Cette virginité, il faut la maintenir, bien entendu. Nous avons à découvrir ce qu'elle veut dire. Nous croyons trop vite savoir ce qu'elle veut dire, de façon technique. Nous avons à découvrir ce qu'est le mystère de cette virginité, c'est-à-dire le mystère d'un accueil total, d'une disponibilité totale à recevoir. Et alors, je suis peut-être obsédé par Bérulle actuellement, mais c'est les 400 ans, donc. Mais Bérulle, effectivement, médite sur cette invasion du divin dans la vie d'une femme et dans la vie de tout être humain. Cet envahissement qui fait que, d'une certaine manière, je ne crois pas aller trop loin en disant que nous avons à devenir de plus en plus vierges et qu'on n'en a jamais fini. De même que, pour reprendre notre thème d'année sur fils et fille, on n'a jamais fini d'être fils, on n'a jamais fini d'être fille. Jésus est pleinement le fils, mais lui-même, il est devenu fils dans le temps. Il a fallu le temps, il n'est pas fils uniquement dans les processions trinitaires, il est fils dans l'incarnation historique. On n'en a jamais fini d'être fils, ni d'être père d'ailleurs, ne vous faites pas appeler père, et je médite cela chaque matin, et on n'en a jamais fini non plus, et on n'a jamais fini d'une certaine manière de découvrir ce qu'est cette virginité, c'est-à-dire cette disponibilité totale, cette disponibilité totale à la fécondité divine.
Et puis, je crois qu'effectivement, tu as raison de dire, voilà, on est dans un cheminement, et ça, c'est le fond de l'évangile, c'est-à-dire que voilà, le salut qui va naître, c'est un bébé, c'était que tu as commencé comme ça, ça aussi, c'est assez rassurant. Voilà, le salut ou la vie divine en nous, eh ben, c'est, pour l'instant, c'est un embryon, ensuite, ça peut naître, ça peut commencer à faire des choses, à accomplir des choses, des projets en ce monde, mais ça reste quand même un enfant, et donc, oui, c'est... Je crois qu'il y a là quelque chose de humble et de très vrai sur notre existence, sur ce salut qui nous est donné en Christ, qui est réalisé par l'Esprit en chacun d'entre nous. Et puisque tu commençais aussi avec l'histoire de la croix et de la résurrection qui clôt ça, si vous voulez, si la croix a une importance, ou si la résurrection en a une, c'est parce que c'est pas simplement une petite légende avec voilà, des morts qui ressuscitent et des... Ça aussi, on a des histoires comme ça. C'est que la résurrection, c'est une résurrection qui parle de notre résurrection aussi, et donc d'une vie qui est plus forte que la mort et qui est faite pour nous. Donc toute cette histoire, je dirais, de l'Évangile, de la conception jusqu'à la fin, c'est à la fois quelque chose qui nous dit Jésus-Christ, historiquement, et en même temps quelque chose, une histoire qui est faite pour que nous la vivions, que nous soyons dans l'imitation de Jésus-Christ, mais pas simplement l'imitation, s'agirait de mimer, non, pour s'ouvrir à cette vie divine qui est montrée en Christ, et que ce soit, que ce nouvel homme qui est conçu là en Marie, ce soit aussi nous-mêmes, en fait, voilà, et puis que aussi par notre action, nous puissions aider les autres à accueillir cette vie divine qui va leur apporter un salut dès maintenant et pour l'éternité. On se revoit. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Sinon, il y a ces fêtes de Noël que nous préparons et qui est voilà, une ouverture à chaque fois, à nouveau frais, je crois, pour faire un pas de plus dans ce mystère, dans cet évangile que nous recevons et que nous partageons. Oui, madame?
Vous avez parlé du texte révélé, n'est-ce pas, par rapport à votre texte qui était bien passé, imaginaire, un peu trop sorti. Est-ce qu'on ne peut pas, pour essayer de comprendre, parce que vous avez dit, il m'a éclairé déjà, essayer de comprendre que ces textes-là, c'est difficile, n'est-ce pas, faire le distinguo entre
ces différents textes. C'est la foi.
Mais je ne crois pas que le texte, je ne sais pas si c'est le texte qui est révélé, si vous voulez. C'est ça dépend, parce que révélé, on aura l'impression que, ben, si vous voulez, on leur tend un parchemin ou on leur souffle. Justement, l'ange Gabriel, on le voit aussi dans le Coran. Hein, c'est lui qui aurait dicté le Coran à Mohammed. Mais si vous voulez, moi, je ne crois pas que Dieu dicte comme ça. Ces évangiles, si vous voulez, ils ne sont pas révélés au sens où Dieu aurait dicté les mots à l'oreille de l'écrivain sacré. C'est ils essayent de rendre compte d'une expérience de Dieu à travers des paroles humaines comme ils peuvent. Donc, je crois que c'est une erreur de dire que ces textes, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, en général, les théologiens s'en sont beaucoup méfiés. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une parole vivante, c'est-à-dire que si on lit ces textes sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, le même Esprit-Saint dont on parle ici, dans ce récit de l'Annonciation, eh bien, il peut être l'occasion d'une parole de Dieu pour nous. C'est-à-dire que dans la lecture de ce texte, dans sa méditation priante, ouverte à l'Esprit-Saint, ça soit l'occasion de laisser Dieu travailler au plus profond de nous-mêmes pour faire naître, grandir le Christ en nous. C'est plus qu'une compréhension. Il peut y avoir, comme ici, une compréhension pour Joseph, une réflexion, aussi une chose qui est de l'ordre de la prière, pour que cette réflexion et cette prière fassent que Dieu agisse en nous. Car la parole de Dieu, c'est pas des mots comme ça, c'est pas des mots écrits sur un papier, c'est pas non plus des paroles comme celles que nous avons entre nous, c'est un supplément d'être, c'est une évolution, c'est un cheminement qui nous est proposé comme une parole nous est proposée. C'est-à-dire quelque chose qui est offert dans un dialogue, comme on le voit ici d'ailleurs, comme dans un dialogue, quelque chose qui peut être entendu ou non, qui peut être compris ou non, qui peut être accepté ou non. Alors ici, Marie, elle entend, elle discute elle progresse et elle dit finalement oui, eh bien je crois que c'est la même chose pour qui nous est proposée. On lit le texte, on réfléchit, on discute, on débat, on s'ouvre finalement à quelque chose qui est de l'ordre d'une bénédiction particulière que Dieu nous donne. Oui, cette grâce, elle est personnelle, particulière pour toi. Tu es béni entre tous. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bénis, mais tu as une bénédiction particulière pour toi. Et il va prendre chair quelque chose en toi par l'Esprit qui sera source de vie pour toi et pour le monde.
Et en deux mots, on a coutume de dire souvent que le texte est inspiré s'il est inspirant, c'est-à-dire que s'il y a une rencontre entre un pôle objectif et un pôle subjectif, mais qui doivent se rencontrer. Mais le texte, tout biblique qu'il soit, il peut être lettre morte, il peut être rien du tout. Donc le texte est inspiré s'il devient inspirant dans une vie, et il est révélé s'il est révélant, c'est-à-dire s'il dévoile quelque chose de mon propre rapport à Dieu, ici, maintenant, au moment où je le lis, où je l'entends. Donc, alors il ne faut pas lâcher l'objectivité, c'est-à-dire qu'il y a un texte qui n'a pas été écrit par moi, donc voilà, je ne peux pas quand même totalement le lire, je le lis en ecclésialement, je le lis en communauté, mais c'est peut-être là mon inconscient catholique qui parle. Et effectivement, il peut être un trou noir. Beaucoup de gens vont lire une page de la Bible sans y voir la révélation, parce que précisément, c'est comme l'expérience du prophète Élie, c'est dans le fin murmure de silence. Il y a quelque chose d'impalpable dans la révélation qui vient à moi, à condition que j'ai cette capacité d'accueil qui est une forme de virginité, effectivement.
Et donc, quand on dit écoutons la parole de Dieu en lisant la Bible, ça peut être trompeur. Mais c'est en écoutant que cette lecture devienne pour vous, pour nous, parole de Dieu. C'est ça la question, en fait. Oui, et ça, on est d'accord, si vous voulez. Mais ça peut être trompeur. On dit voilà, écoutons la parole de Dieu, on va lire un bouquin. C'est une erreur.
Oui. Oui, au service de la foi, c'est ça qui est toujours. Et quelquefois, ils sont schizophrènes.
Bon, bah donc, bonne fête de Noël à chacun, chacune d'entre
vous. Joyeux Noël.
Et joyeux Noël, voilà, soyez dans la joie.